C'est vraiment un honneur pour moi d'être là et ce matin, alors que c'est un exercice que je n'ai jamais pratiqué, donc j'appelle à votre indulgence. Je suis effectivement médecin généraliste depuis 6 ans, après 10 bonnes années d'études. Donc on m'avait sollicité, à l'été dernier, pour éventuellement parler de la santé. Au sein de la CBM Campus. Alors j'ai un petit peu réfléchi, puis je me suis dit, je vais essayer de simplifier ce que je dis en permanence, tous les jours de sûr, après probablement presque toutes les consultations, à chaque fois qu'on m'apporte une prise de sang, à chaque fois qu'on m'apporte une prise de sang, c'est bien souvent, vous avez trop de cholestérol. Oui, mais docteur, je ne mange rien. Alors, si. Et donc l'idée, c'est d'essayer de développer ça ensemble, qu'on puisse peut-être désacraliser un petit peu ce qui est l'alimentation, l'activité physique. Alors, ça ne va pas forcément vous plaire tout le temps, clairement, parce qu'il y a des choses qui sont non compatibles avec une bonne santé, donc on va essayer d'échanger ensemble, et puis n'hésitez pas à m'arrêter quand vous avez des questions. Pendant toute la session. Alors j'ai essayé vraiment de résumer ma pensée, puis aussi de simplifier au maximum. J'ai essayé de regarder plusieurs ressources sur l'alimentation, sur la diététique. J'ai rarement trouvé un bouquin de moins de 300 pages, ou moins de 200 pages, ce qui moi me décourage très vite. Je voulais être tout à fait honnête, j'ai passé 10 ans à manger des bouquins. Maintenant j'essaie de synthétiser plus. Et donc, j'essaie de simplifier. On ne peut pas être juste en simplifiant. Donc forcément, il y a des approximations dans tout ce que je vais vous présenter. Et l'idée, c'est que vous fassiez votre propre expérience et puis que si la méthode vous paraît cohérente, eh ben, vous puissiez vous l'approprier surtout. Donc, ma petite introduction, c'est ça. C'est la transformation, elle ne se trouve pas sur la ligne d'arrivée, mais sur le chemin pour y arriver, donc dans chaque pas qui y conduit. Et moi, je n'y suis pas du tout à l'objectif. Autant vous le dire, j'ai commencé à travailler sur le sujet donc depuis qu'on m'en a parlé, mais je suis loin d'être arrivé, mais ça m'a plu, en tout cas, d'essayer de comprendre les différents freins, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à certains objectifs qu'on met en place. Et là, on sort d'une période où la plupart des gens ont abandonné leurs objectifs de résolution. Maintenant, si vous les tenez depuis le 1er janvier, c'est probablement que vous avez une bonne habitude. Moi, j'en ai lâché certains. Alors, vous me connaissez un tout petit peu maintenant avec la première expérience que vous avez eue avec moi. Alors, on va pas faire une grande marche, mais on va quand même faire 2-3 exercices. Vous allez choisir une équipe. Oh, encore une fois, ça sera abordable. Hein. Je suis pas là pour vous faire trop souffrir ce matin, mais un petit peu quand même. Alors, vous n'allez pas passer devant, vous n'allez pas passer. Je ne vais pas vous faire chanter, je vais simplement faire un petit peu d'exercice là-dessus. Choisir son équipe entre. Alors, j'ai pris du sang matériel, poids de corps, les squats et les pompes. Ça, c'est à peu près pour ceux qui ont mal aux genoux, vous ferez des pompes. Pour ceux qui ont mal aux bras, vous pouvez faire des squats. Et si vous avez mal partout, on en discute après. Alors, l'idée vraiment, et ça va être l'idée que je vais essayer de développer pendant toute la session, c'est qu'il n'y a aucune activité sportive ou activité physique qui est inaccessible. Je dis à mes patients de 90 ans presque grabataires qu'il faut faire de l'exercice physique. A priori, si vous êtes venu sur vos deux jambes aujourd'hui, on est bon. Donc au pire des cas, vous faites des squats, parce que c'est ce qui est peut-être le plus abordable, et encore que les pompes surélevées, c'est pas si compliqué. Un demi-squat, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Est-ce que ça, même pour ceux qui ont plutôt mal, on est pas mal. Et surtout, on se relève sans l'aide des mains. Exactement. Et c'est tout le problème. Et si on a trop de mal, eh bien on va s'assister. On va prendre une main sur la table et on va
y aller.
L'important, c'est le mouvement. L'important, ça va être de répéter ces mouvements-là. Pour ceux qui sont un peu plus en capacité de faire des mouvements, eh bien, vous faites le squat profond, qui est simplement ça, ni plus ni moins. Et le pistol squat, je ne vous le montrerai pas, je ne sais pas le faire. Et pour ceux qui sont le plus qui savent le faire, c'est la même chose, mais sur un pied. Voilà, comme ça. Et puis, on remonte, que moi, je ne sais pas faire. Comme je vous dis, je ne suis pas arrivé. Hein. Mais j'en ai fait pour tout le monde. Les pompes, alors, même chose. Pour ceux qui ont... Là, je vais devoir lâcher le micro. Donc, simplement, ce petit mouvement-là, ce n'est pas bien compliqué. On est d'accord ? Les pompes à genoux, est-ce que je vous le montre ou pas ? Oui. Vous doutez ? Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, en fait, ce que je vous demandais, voilà, c'est vraiment en fonction de vos capacités actuelles, c'est pas de vous faire mal et c'est vraiment pas le but d'aujourd'hui. C'est simplement essayer de bouger un petit peu, même dans une ambiance studieuse, je défends l'idée qu'on peut bouger. Donc, vous choisissez un petit peu ce qui vous convient et puis, régulièrement, je vais vous demander de le faire. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes capable d'en faire 10 ? Voilà. Donc vous mettez le maximum, vous ne choisissez pas le pistol quad si vous n'en faites que 2. Donc comme moi, vous ne choisissez pas ça, c'est pas ça, moi je ne sais pas en faire 1. Donc le squat profond, moi je serai à peu près là, je peux faire 10 squats profonds sans trop de difficultés. Donc je vous laisse choisir votre équipe, et puis vous le notez, vous pouvez en faire 10 sans trop de difficultés. D'accord ? 10 d'affilée. Donc ce sera éventuellement le plus abordable, c'est ce mouvement-là. C'est s'asseoir et se relever en étant en s'aidant de la main. Ah, il y a pas de, c'est une équipe, c'est juste pour dire vous choisissez votre activité en quelque sorte. Il n'y a pas de compétition, tout va bien. Vous choisissez juste l'exercice que vous allez faire régulièrement et on va le commencer maintenant. Donc vous avez choisi un exercice et vous allez faire 50% de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que si vous en faites 10, ce qui était la consigne, vous allez en faire que 5. Ça va ? Eh bien debout, on y va. Voilà. C'est bon, une fois que c'est fait, vous pouvez vous rasseoir. Ça ne doit pas prendre longtemps. Ces 5 mouvements, c'est moins de 30 secondes. Voilà, vous pouvez vous rasseoir une fois que vous avez fait le mouvement. En France, un adulte sur deux est en situation de surpoids. On est un des pays européens les moins touchés par cette pathologie-là. Donc, mais c'est quand même assez important. Hein. 50% des gens sont en situation de surpoids et donc 18% en situation d'obésité. C'est un facteur de risque de diabète, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de certains cancers. Une personne sur 10, y compris les enfants, à une alimentation équilibrée. C'est très peu. La plupart des gens, donc 9 personnes sur 10, on va dire échappent, sortent de ce qu'on pourrait appeler une alimentation équilibrée. Un adulte sur 2 pratique suffisamment d'activité physique. Alors là, j'ai été surpris de la statistique. Je ne sais pas de quelle année elle date, mais je ne suis pas certain. Par contre, que 20% des jeunes. Donc c'est très peu pour les jeunes, alors que normalement, c'est l'inverse. Hein. Alors, la définition OMS de la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Elle est très intéressante, cette définition, parce que ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir de maladie, c'est aussi le fait de se sentir bien. Et avant, ils avaient mis la spirituelle dedans. Elle a été enlevée il y a quelques années. Moi, je l'ai appris pour mes concours avec la notion de spirituelle, en plus, mais qui a été enlevée un ou deux ans après mes concours. Bon, j'aurais laissé. Et sur ce petit verset-là, pour vous accompagner, j'ai mis quelques versets qui me plaisaient bien en rapport avec aujourd'hui. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alors on va déjà parler de la motivation. On est souvent motivé. Moi je suis souvent motivé pour me mettre au sport, changer mon alimentation, je suis très souvent motivé. C'est l'élan initial, c'est-à-dire ce qui va me permettre d'agir. Mais alors la motivation n'est absolument pas suffisante. Elle permet d'avoir un coup d'activation. Le coup d'activation, c'est ce qui vous empêche, en fait, l'énergie nécessaire pour faire une action. Donc la motivation, elle va permettre de régler ce coup-là, une ou deux fois. Puis finalement, la répétition, elle est plus difficile. Et là, c'est là où vient la discipline. C'est la capacité à répéter une action qui est planifiée, mais indépendamment du niveau de motivation. C'est ça qui est, à mon avis, le plus compliqué, en tout cas me concernant. Et alors, c'est là qu'on va introduire la notion de friction. La friction, c'est tout ce qui va vous empêcher de faire une action. Or, c'est valable pour tout, hein, l'alimentation, l'activité physique et tous les domaines de votre vie. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas faire cette action? Est-ce que vous rentrez trop tard du travail? Est-ce que les chaussures sont à l'étage et puis finalement bon, le canapé est bien plus près? Est-ce que les vêtements ne sont pas lavés? Donc, ben mince, je ne peux pas faire de sport du coup. Donc il y a plein de frictions, il faut les identifier, mais voilà, c'est ce qui va nous permettre de développer des leviers comportementaux, et les leviers comportementaux permettent de réduire les frictions. Bon, grosso modo, on en est là. Et une fois que vous avez une discipline sur un certain temps, ça dépend beaucoup des gens, vous avez une habitude. Et cette habitude-là, c'est un comportement qui est devenu grande partie automatique. Vous n'y pensez pas, ça devient naturel. Comme vous ne pensez pas forcément aller au travail, c'est naturel, parce qu'il faut gagner des sous, et puis parce que on aime, enfin, j'espère, vous aimez ça aussi, vous aimez travailler, aller au travail. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent le running et qui nous disent « Oui, mais moi, je ne peux pas ne pas courir. » Moi, je ne le comprends pas. Clairement, je n'ai jamais réussi à atteindre ce niveau-là de compétence, mais je sais que ça existe, et en fait, c'est en grande partie parce que c'est devenu une habitude, c'est devenu un mode de vie, et alors pour plein d'autres raisons, hein, des raisons presque de drogue, il y a aussi des actions hormonales et sur l'endomorphine notamment, qui va droguer un petit peu les gens, mais ça aide à générer une habitude. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Motivation, discipline, habitude? Voilà, c'est un peu gros, hein. Mais les leviers, c'est vraiment ce que je... Vous allez faire un petit exercice après ensemble. Les leviers comportementaux. J'en ai listé plusieurs. On a les leviers environnementaux. Ils modifient votre environnement pour rendre l'action plus facile, plus évidente, sans avoir besoin de réfléchir. Les leviers temporels, c'est l'organisation. Les leviers cognitifs, c'est on structure l'action sur un plan mental, on la facilite, c'est facilitateur. Les leviers de simplification, et bien parfois, lorsqu'on a un défaut de motivation, lorsqu'on est fatigué, on va avoir dans notre manche un exercice plus facile. On se dit, bon, ben là, je suis fatigué, mais au lieu de rien faire, on va faire quelque chose de plus facile, de moins coûteux au niveau énergétique, par exemple. Et encore une fois, c'est valable pour tout, hein. Si j'ai du mal à lire ma Bible aujourd'hui, je peux lire qu'un petit verset. Mais c'est mieux que de rien lire. C'est un levier de facilitation, de simplification. Les leviers de feedback et les leviers d'autocohérence, c'est assez similaire. C'est rendre les effets perceptibles. Typiquement, un feedback, c'est le poids. Vous êtes en surpoids et vous avez la motivation pour ne plus être en surpoids, la courbe de poids, ça va être votre feedback. Il y en a plein. Et l'autocohérence, c'est simplement le fait d'avoir pu. C'est par rapport à soi. J'ai pu faire 300 minutes de sport ou d'activité physique dans ma semaine, je suis sportif. C'est la définition. Donc c'est de l'autocohérence. Vous êtes maintenant, vous entrez, vous définissez comme. Faudra demander au pasteur à partir de quand on devient spirituel en autocohérence. Et les leviers sociaux, c'est utiliser le contexte social, mais pour favoriser l'action. Mais typiquement, voilà, c'est pour ça que un club de sport, ça peut être très intéressant si vous voulez pratiquer, parce que ça va vous forcer à y aller. Si vous n'y êtes pas là, peut-être que l'équipe de foot n'a pas de gardien, ce qui devient beaucoup plus compliqué. Donc ça va vous forcer, même si vous n'avez pas envie, à participer. C'est un exemple. J'aimerais que vous me trouviez deux ou trois leviers par catégorie. Vous avez peut-être, je sais pas, cinq minutes pour trouver des leviers par rapport aux différentes catégories, environnementaux, temporels, cognitifs, etc. Vous avez cinq minutes. Je vois des yeux se froncer. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, bah par exemple, un levier environnemental. Je veux faire de la course à pied. Un des leviers que je pourrais développer sur le plan environnemental, c'est de mettre mes chaussures à côté de la porte d'entrée. Parce que ça me permet de ne pas réfléchir, mais où sont mes chaussures ? Vers le canapé. Donc on choisit le canapé. L'idée, c'est d'aller vraiment limiter drastiquement tout ce qui pourrait vous empêcher d'arriver à faire l'action que vous avez prévue. En temporel, ça peut être des horaires de travail précis. Ou alors, je sors du travail, et ben je passe devant une salle de sport, tac, j'organise mon temps pour aller à la salle de sport. Pour l'alimentation, un levier temporel, c'est de se dire, je choisis des recettes de 10 minutes. Parce que je n'ai pas plus de temps à donner à ma préparation, je vais faire que des recettes de 10 minutes. Et vous faites des recettes de 10 minutes. Donc voilà, trouvez-en un ou deux par levier. Alors il faut déjà identifier les freins. Donc en gros, c'est vous dire qu'est-ce qui m'a empêché jusqu'à présent de ne pas arriver à mes objectifs, en termes d'alimentation par exemple et d'activité physique. Et après, essayer de trouver des leviers dans chaque domaine qui pourrait vous encourager et vous faciliter à arriver à vos objectifs. Pardon. Et puis après, on fait un mini échange. 5 minutes, ça vous paraît, ça va ? Nous pouvons discuter ensemble. Hein. Est-ce que vous avez des idées, du coup ? On peut faire un mini... Peut-être pas tour de table, ça va faire beaucoup après. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées de leviers environnementaux ? C'est facile, à mon avis, c'est le plus facile à trouver. Des leviers environnementaux ? Qui ? Il m'en faut aller deux, on va dire deux. Okay. Mettre un sac avec les affaires de sport dans la voiture. Typiquement un levier environnemental, effectivement. Parfait. Un autre ? Alors, ouais, alors ça sera plutôt dans le comportemental. Effectivement. En environnemental, exactement, avoir entretenu son vélo. Ouais, rien de plus déstabilisant que d'avoir une roue qui est dégonflée et puis de vouloir partir en balade. Mais sinon, ça finit sur le canapé. Ouais, d'avoir déjà préparé sa nourriture, effectivement. Et, typiquement, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué. Il y a une solution entre on prend tout ce qui tombe sous la main ou effectivement on prend un fruit qui est disponible plus facilement ou un œuf qui est déjà cuit. Ouais. Pour des leviers temporels ? Exactement. Alors ça, c'est d'associer l'action à une autre action. C'est-à-dire que vous allez travailler, donc vous allez, au lieu de prendre la voiture, marcher. Alors ça, c'est tout ce que... Enfin là, ça, vous l'entendez à longueur de journée, hein, d'aller en voiture, enfin d'aller en vélo ou à pied au travail, mais c'est vraiment dans ce type de levier-là que ça s'inscrit. Vous n'avez pas le choix d'aller au travail, donc vous allez y aller en faisant du sport, en faisant de l'activité physique. En plus, je préfère ce mot-là que sport. Ok ? Le chien ? Oui, complètement. Avoir un animal de compagnie et bien s'en en prendre soin. Il y a bien des gens qui achètent un chien, entre guillemets, aussi pour faire de l'activité, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir aller le promener. Mais un animal de compagnie, ça marche. Alors, ça ne marche pas avec le chat. Mais avec le chien, oui. Plus difficile. Par là, est-ce qu'il y a des idées, même cognitives ? Alors oui, noter créneau dans l'emploi du temps, complètement. En fait, l'activité, ou même le noter créneau de préparer un repas, devient aussi indispensable que d'aller au travail. Ce qui en soi est une très bonne remarque, parce que on s'oblige d'aller au travail pour avoir un salaire, puis pas être viré. Notre corps n'est pas moins important que le travail. Mais je dirais même l'inverse. Alors, ensuite, par là. Tu peux louer quoi ? Tu peux chanter. Ah oui, faire autre chose.
Alors ça, pour le coup, ça, c'est une bonne remarque. Je ne saurais pas le classer. Je pense plutôt dans les leviers cognitifs, c'est-à-dire de rendre agréable une activité qui ne vous paraît pas immédiatement agréable. Par exemple, vous n'aimez pas trop marcher, ben je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous bassiner avec le fait qu'il faut. Et ben c'est de mettre éventuellement un tapis de marche devant la télé. Il y a les aficionados et les amoureux de la marche à pied vont hurler. N'empêche que vaut mieux marcher en regardant un bon film que de ne pas marcher du tout. Et ça peut aider effectivement. Et donc l'idée de louer, la marche à pied est excellente pour ça. On a une pasteur qui fait que ça. Qui est très sportive d'ailleurs du coup. Ok, est-ce que là-bas il y a des idées? Pas beaucoup interrogé là-bas. De différents leviers après. Que le papa regarde les enfants. Alors l'organisation, l'organisation familiale, ou alors avec l'enfant dans le dos. Oh. En carriole, ouais. Mais typiquement, voilà, on a effectivement soit un levier temporel ou organisationnel, familial, soit un levier matériel, c'est de prévoir le matériel pour. Bon, moi, je m'étais noté deux, trois petites choses. Effectivement, levier environnemental, les chaussures de sport visibles, matériel prêt à l'usage. L'absence d'aliments ultra transformés facilement abordables. Moi, j'avais dit à une patiente un jour qui avait beaucoup de mal à se retenir, typiquement, de mettre sous clé les aliments qui étaient vraiment voilà, pas adaptés, et puis de mettre la clé à l'étage. Je ne sais pas si elle l'a fait longtemps, mais c'était une idée. Le téléphone éloigné de la chambre, par exemple, typiquement, si vous êtes pour l'endormissement, il est recommandé, on le verra plus tard, le téléphone, vous ne le mettez pas dans la chambre si vous êtes trop tenté, entre guillemets. Oui, alors les objectifs, ça va être dans les feedbacks, dans les leviers de feedback. Parce que du coup, on va résoudre les objectifs. On va arriver à l'objectif, donc ça va nous encourager. Ok, alors ok, oui. Alors là, on pourrait le mettre, du coup, ça regroupe beaucoup de choses. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est s'inscrire à un semi-marathon, par exemple, ou se mettre des objectifs. Ça va être dans le levier cognitif, et puis ça va rejoindre le feedback quand on l'a fait, et l'autocohérence quand on l'a fait. Parce qu'on a réalisé ça, donc ça nous rend fiers de nous. Et donc l'idée, c'est de se mettre des objectifs atteignables. Et ça, c'est peut-être plus dur, c'est qu'un marathon demain, c'est compliqué, en tout cas pour moi. Donc je vais plutôt être dans l'échec, et donc du coup peut-être dans le découragement. Et là, donc, c'est vrai que les leviers, il faut bien les choisir de manière pertinente. Là. Levier temporel, je m'étais noté des horaires fixes, une durée définie à l'avance. C'est-à-dire que vous dites, voilà, moi je vais faire 15 minutes d'activité physique, mais je n'en ferai pas une heure, ça peut aider. Des actions associées à un événement existant, donc c'est ce qu'on a dit avec le travail, se rendre au travail à pied, par exemple. Les leviers cognitifs, c'est plutôt l'intention, où, quand, comment. Demain, je vais faire, je vais bien manger, mais comment est-ce que je me débrouille, où est-ce que je vais le faire et comment je vais le faire. Le fait de visualiser, le fait de s'organiser comme ça peut vraiment aider à déclencher l'action au moment venu. Des règles personnelles simples et des objectifs minimaux. Donc ouais, les objectifs minimaux, c'est dans cette catégorie-là. Les leviers de simplification. Donc là, c'est assez important, je pense. Comme levier, c'est vraiment de se donner des cartouches quand on n'est pas en forme. Vous êtes... vous voulez manger sainement, un levier de simplification, c'est les surgelés. Alors les bons surgelés, c'est-à-dire les surgelés qui sont non cuisinés, mais c'est beaucoup plus facile que d'aller éplucher tous ces légumes, les mettre, alors ça sera peut-être moins goûtu, mais simplement ça sera beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus rapide. Il n'y a aucun problème avec ça. On a les mêmes nutriments, grosso modo, voire même plus que si vous avez laissé traîner vos légumes pendant une semaine parce que vous n'avez pas cuisiné. Donc les surgelés, ça peut être un excellent levier de simplification quand on est fatigué, en général. Hein. Ensuite, j'ai perdu ma page. Hop. En levier de simplification, on a éventuellement les suppressions d'étapes inutiles. Par exemple, moi c'est que je suis un fervent défenseur de la musculation au poids de corps, ce qui nous affranchit à peu près de toutes les salles de sport. Alors, chez certaines personnes, ça peut être une motivation d'aller à la salle parce que c'est un lieu, c'est un levier temporel, cognitif. Vous allez et vous payez pour ça, donc vous aurez envie d'y aller. Ça peut marcher. Mais moi, si je rentre du boulot, j'ai pas envie de reprendre la voiture, d'autant plus que j'habite à l'autre bout du monde, pour aller à la salle de sport et j'ai déjà perdu 20 minutes ou 30 minutes. 20 minutes ou 30 minutes que je préfère faire chez moi et je gagne du temps. Donc ça, c'est des étapes de simplification, un levier de simplification. Le feedback, on en a parlé, mais des résultats mesurables et accessibles. Votre objectif, c'est de manger sainement. Ben, vous pouvez compter le nombre de fois où, dans la semaine, vous arrivez à faire un plat équilibré, comme on va le voir juste après. Le poids, la mesure du périmètre abdominal, tout ça, ça peut être intéressant pour vous motiver et puis voir qu'il y a des résultats. Les résultats sont très importants pour garder la discipline. Sans résultat, vous ne pourrez pas garder la discipline, il n'y aura pas de sens à ce que vous faites. Et l'autocohérence, donc on en a déjà parlé. Leviers sociaux, alors le levier social, la compétition, ça fonctionne pas mal aussi. Alors pour ceux qui n'ont pas l'esprit de compétition, ils ne le comprennent pas. Moi, je l'ai très peu. Mais on peut faire du sport, comme je vous disais, avec le football. Si vous êtes gardien et puis le meilleur gardien de l'équipe, ben, il va falloir que vous soyez là au match. Même si vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie. Or, ça ne marche pas avec la nourriture, la compétition, j'ai pas, à part Top Chef. Mais ce n'est pas tellement équilibré, Top Chef. Qu'est-ce qu'on entend par redevabilité ? Avoir une sorte de... Oui, ça rentrerait là-dedans. Oui. Alors, comment est-ce qu'on... Oui, c'est une sorte de coach, mais de retour, quoi. Ouais, ou témoin. De... Ouais, témoin. Ouais. Excellent. C'est le bon mot, c'est témoin. C'est ce que je cherchais. Mais effectivement, d'avoir des témoins et dire, voilà, mon objectif, c'est ça, et je vais y aller comme ça. Ouais, la question, c'est, on est peut-être un peu plus... vigilant quand on a effectivement un témoin qui nous regarde. Mais ça, c'est valable dans beaucoup de domaines, effectivement aussi. Voilà, il y a plein d'applications de suivi. Vous trouvez alors sur Internet, hein, l'alimentation et le marché de l'alimentation et le marché de l'activité physique, c'est des milliards. C'est vraiment parce que on est tous un peu dans les mêmes problèmes dans nos sociétés, et du coup, c'est une manne immense. D'ailleurs, j'imagine vous le savez, mais ce qui fait la rentabilité des salles de sport, c'est les absents. Si tout le monde utilisait les salles de sport, ça ne serait pas du tout rentable. Donc, continuez à ne pas faire de sport. Non, nous, l'idée, voilà, c'est d'être économe dans tous les domaines. La motivation initie l'action, la discipline la répète, les résultats l'encouragent et l'habitude la rend automatique. Les leviers comportementaux assurent la transition entre chaque étape. Et dans Galates 5, 22-23, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Il va vous en falloir. Vous vous rappelez de votre exercice ? On est reparti. On est parti pour l'alimentation. Alors, comme je vous disais en introduction, c'est vraiment une synthèse et une simplification des différentes recommandations que j'ai pu trouver dans les ressources bibliographiques, sur différentes ressources. Mais comme je disais, c'est très très simplifié. Et donc, ça ne peut pas être juste pour vous spécifiquement. Ça va vous, j'espère, ça va vous donner une sorte de cadre, on va dire ça comme ça, mais qu'il faut que vous appropriiez, sinon ça ne marche pas. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller, c'est une fondation, voilà. C'est une fondation sur laquelle vous allez construire vos propres habitudes et vos propres objectifs. Par rapport au surpoids, je ne vais pas être blessant, je ne veux pas être blessant. Il y a un courant actuellement qui parle de body positive. Alors, je pense que ça n'existe ni dans la santé, ni bibliquement. Le body positive, en acceptant ses défauts, entre guillemets, ce que la société pourrait juger comme un défaut, un grand nez, un grand menton, je ne sais pas, c'est une évidence. Dieu nous a créés parfaits, selon sa volonté, dans notre physique. Ce n'est pas une question. La couleur de peau, les petits défauts sur notre visage, sur notre corps, ce qu'on accepte moins bien. Ça, je crois que c'est vraiment, ça pourrait être le body positive, et je pense que ça, faut l'accepter, je sais pas, mais même le vous trouvez beau, quoi, vous êtes beau. Et ça, c'est une réalité. Là où je suis moins d'accord avec, même pas du tout d'accord avec cette tendance-là, c'est le fait de normaliser le surpoids. La Bible en parle pas comme ça. Elle dit pas, ben, ça, c'est pas bien. Et comme souvent dans la Bible, on n'a pas de guideline sur ce niveau-là. Mais il y a plein de choses dans la Bible qui nous font dire que, d'une part, ils ne vivaient pas du tout comme nous, ils n'avaient pas les mêmes défis que nous. À l'époque de la Bible, on estime qu'il y avait entre 15 et 20 km de marche par jour pour tout le monde. Ce n'était pas un débat, il fallait se déplacer, il n'y avait pas de voiture, ni de vélo. Il n'y avait rien du tout. Donc il fallait se déplacer, et puis ils faisaient à peu près tous des métiers physiques. Tous les disciples ont des métiers physiques. Alors on doit avoir Luc qui est... Mais même médecin à l'époque, hein, ça ne devait pas être comme moi. Hein. entre deux saignées. Donc, vraiment, c'était pas... ils n'avaient pas du tout les mêmes défis que nous. Nous, on est dans une société d'abondance, une société avec tout à porter tout de suite et très peu cher. La mauvaise nourriture coûte peu cher par rapport à la bonne nourriture. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Les grosses sociétés qui vous font des produits transformés, ultra-transformés, ben font tellement de quantités qu'ils arrivent à casser des prix. Donc, je pense que cette tendance-là à accepter ce qui n'est pas de la santé n'est pas biblique pour le coup. Dans Éphésiens 5, verset 29. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Vous imaginez le level d'auto-bénédiction et d'auto-prendre soin de soi que vous devez avoir avec votre propre corps. Comme Christ a aimé l'Église. C'est ça, hein ? Comme Christ le fait pour l'Église, pardon. Comme Christ le fait pour l'Église. Eh ben, il faut s'aimer, quoi. Faut aimer notre corps, le nourrir et en prendre soin. C'est biblique, ça, pour le coup. J'ai beaucoup de patients qui me disent « Docteur, je mange rien et je ne perds pas de poids. » Eh ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi ? Parce qu'on est dans une société d'ultra-consommation, d'abondance dans tout. Et hormis des pathologies, évidemment, là j'enlève tous les gens qui ont des maladies thyroïdiennes, des maladies avec des traitements qui font que le métabolisme fonctionne moins bien. Mais si vous n'avez pas de diagnostic, et c'est important de consulter quand, malgré ce qu'on va dire là, vous avez des difficultés, mais en dehors du contexte de la maladie, il n'y a pas de magie dans le poids. C'est une balance entre les apports et les dépenses. Cette balance-là est très injuste, entre guillemets, c'est qu'elle dépend beaucoup de vous et de votre génétique. Il y a des gens qui vont être plus charpentés, naturellement, des gens qui vont être plus fins et qui vont pouvoir manger, vous les voyez manger tout et n'importe quoi, ils ne prennent pas un gramme. Et ça, vous êtes nés avec. Merci papa, merci maman. Mais c'est comme ça. La question derrière, c'est comment est-ce que vous allez, vous, gérer la situation pour quand même rentrer dans ce que, je pense, Dieu veut pour vous, dans la bonne santé et puis dans le fait de ne pas être esclave de son corps. Les apports, donc j'en fais très rapidement, je ne vais pas développer ça plus que ça, vous avez des dizaines de milliers de ressources là-dessus. Les glucides, les protéines lipides, les trois principaux macronutriments du corps. Glucides, 4 kilocalories par gramme consommé, protéines 4, et les lipides 9. Ça, c'est vraiment ce qui va faire l'énergie que le corps va utiliser. Les protéines, c'est le principal stock dans le corps, c'est les muscles. Donc dès que vous allez faire de l'activité, vous aurez besoin de protéines. C'est vraiment quand on est en situation en gériatrie, par exemple, on a vraiment un objectif, c'est de faire de l'hyperprotéiné. Parce que les patients en situation de glissement, ils vont avoir une fonte musculaire. Et l'idée, c'est de leur faire faire de l'exercice adapté et de restaurer des stocks de protéines. Les lipides, donc ça, c'est plus important pour tout ce qui est hormonal, fonctionnement cérébral. les lipides sont hyper importants. Hein. L'idée, ce n'est pas de ne pas manger de gras, hein, mais de manger du bon gras et en quantité raisonnable. Et les glucides, c'est vraiment le carburant de l'immédiat. Et donc, finalement, dans ces différents apports, on va se battre contre les acides gras saturés. Et le drame du siècle, c'est qu'il y en a partout. Partout, dès que vous avez quelque chose de cuit, vous allez avoir des acides gras saturés. La viande est bourrée d'acides gras saturés, et plus vous la cuisez, d'autant plus avec des huiles qui sont surchauffées, ça, les bonnes graisses vont se transformer en acides gras saturés. Tout ce qui est friture, tout ce qui est grillé, tout ce qui est bon, en fait. Alors, c'est ce que je dis aux patients. Qu'est-ce que je dois arrêter ? Tout ce qui est bon. Possible. L'idée, c'est d'agir sur les acides gras mono- et polyinsaturés, donc les huiles. Huile d'olive, lorsque vous voulez chauffer quelque chose, c'est la base. Vraiment, c'est le régime méditerranéen. Vous chauffez l'huile d'olive, il ne faut pas qu'elle fume. Vraiment, vous chauffez faiblement chauffé, mais ça, c'est suffisant pour cuire les aliments. Un wok, ce genre de choses, pour ceux qui cuisinent un petit peu. Mais moi, je cuisine très peu. Et je me simplifie la vie à l'extrême. Hein. C'est ma femme qui fait. Les acides gras polyinsaturés aussi, donc dans les oléagineux, tout ce qui est les noix, les noix de pécan, noix amandes, etc. Non grillés, non salés, évidemment. Et oui. Les cacahuètes, excellent les cacahuètes. Mais il faut les décortiquer, il ne faut pas qu'elles soient grillées, salées. Quoi. L'index glycémique, alors je ne sais pas si vous avez un petit peu... Avant, on parlait d'acide... avant, c'était... du coup, j'ai perdu la notion de ce que se faisait avant. C'était les sucres lents et sucres rapides. Voilà. Ça, ils ont supprimé ce concept-là. Et maintenant, on est sur l'index glycémique. Chaque aliment comportant des glucides ayant un index glycémique plus ou moins élevé. C'est assez intéressant. Donc, l'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire grimper votre taux de sucre dans la circulation. Vous mangez du sucre pur, vous allez avoir un index glycémique qui est très élevé et donc qui va faire grimper le sucre dans le sang de manière très rapide. La conséquence à ça, c'est que votre corps va réagir parce qu'il ne peut pas garder un taux de sucre dans le sang élevé longtemps. Donc il va sécréter de l'insuline par le pancréas. L'insuline va être sécrétée en trop grande quantité parce que le corps est en mode « oulala, j'en ai beaucoup trop ». Il va donc y avoir une sursécrétion d'insuline et donc dans le deuxième temps, une glycémie qui va redescendre mais presque trop bas. Et c'est le fameux coup de pompe des 11 heures. Lorsque j'ai des patients qui viennent et qui me disent « oui, mais à 11 heures, je suis tout le temps fatigué », j'interroge sur le repas du matin. Et ce qu'on fait depuis 30 ans, moi j'ai toujours connu ça, les céréales le matin avec du lait, c'est une catastrophe. C'est le pire qu'on puisse donner à un enfant, c'est ça. Parce qu'on n'a que des glucides. Et à 11 heures, les gamins, ils sont secs. Parce que du coup, leur pancréas a essayé de gérer la situation au mieux. Et à 11 heures, ils sont épuisés. Il faut limiter au maximum les aliments avec des index glycémiques rapides. Moi, comme je suis très faible, j'essaye, depuis que je suis formé aussi avec cette présentation, de me dire... j'arrive pas à prendre qu'un Ferrero, ça n'existe pas chez moi. Voilà, je suis faible, je ne peux pas prendre qu'un seul Ferrero Rocher. Donc je me dis, j'en prends pas. Et puis, attends, sauf le week-end. Sauf le week-end, où là, du coup, je m'autorise des cheat meals, on en parlera après. Mais dans la semaine, je me dis, j'essaie d'éviter au maximum, et moi, au maximum, ça veut dire pas du tout, parce que sinon, si je mets le doigt dedans, je sais qu'il y a tout le reste qui va. J'essaie d'éviter au maximum les sucres rapides. Donc le sucre, en fait. Dès que vous sucrez quelque chose, j'essaie de limiter. C'est ma méthode. Je ne dis pas que c'est la bonne. C'est comme ça, avec ça fait partie de mes leviers à moi. On passe sur les dépenses. Dans les dépenses, on a deux choses principales. Le métabolisme de base. Donc ça, c'est le métabolisme. Si je vous laisse allonger sur un lit une journée... On aura globalement votre métabolisme de base si vous ne bougez pas un muscle. C'est comment est-ce que le corps, qu'est-ce qu'il a besoin pour fonctionner ? Au repos, tout fonctionne. Heureusement, sinon les cellules meurent. Donc pour vivre, elles vont consommer de l'énergie, Donc c'est la méthode de fonctionnement, c'est les kilos, enfin de mesure, c'est les kilocalories. Elles vont consommer des lipides, des glucides, voilà, de manière différente selon chaque cellule. Et tout cet ensemble de consommation va faire le métabolisme de base. Vous n'avez fait aucun effort. C'est là où, du coup, je parle d'approximation. Parce que vous comprenez qu'entre un gaillard qui fait 1m90 et puis 90 kg, et puis quelqu'un qui fait 1m60 et 60 kg, c'est pas tout à fait le même métabolisme de base. Alors on n'est pas du simple au double. Le premier va plutôt avoir, une 18-19 kilocalories par kilo, tandis que l'autre en aura un peu plus dans les 25. J'ai coupé l'apport en deux, je suis à 22. Bon, ça correspond à peu près à tout le monde. Donc c'est ce que vous avez juste en bas. Les 22, les trois chiffres 22, c'est votre métabolisme de base. C'est une approximation. Kilocalories par kilogramme par jour. Il manque le jour d'ailleurs. Ça, c'est ce que vous consommez. C'est votre carburant nécessaire pour vivre une journée. Le PAL, le Physical Activity Level, c'est ce qui est en lien avec votre activité séculière, votre travail. Et donc, ils ont fait des calculs. En gros, je vous simplifie les choses, mais pour une activité de bureau, comme la mienne par exemple, on a 8 kilocalories par kilo par jour d'activité, en plus. C'est-à-dire que le fait de me lever, d'aller chercher un patient, de revenir et de l'installer, ça dépense à peu près ça. Un travail actif, les soignants, les vrais, ceux qui sont dans les services et qui portent les gens, pas les médecins, mais les gens qui travaillent avec le patient qui marche des kilomètres et des kilomètres, là c'est un peu plus, on est plutôt sur 13. Et puis les activités physiques, les travaux physiques comme les chantiers, les paysans, tout ça, c'est encore plus, on est plutôt sur 18. Encore une fois, ce sont des approximations, c'est vraiment pour vous donner une idée. Là, j'aimerais que vous fassiez le calcul pour vous, du coup. Vous avez votre métabolisme de base, 22, que vous multipliez par votre poids, et vous avez votre métabolisme de base pour un jour. À ça, vous rajoutez, si vous êtes étudiant, c'est 8. On n'a pas pris l'activité physique qu'on va développer après. Là, c'est vraiment la base et le travail. Si vous êtes retraité et que, du coup, il n'y a pas plus d'activité que ça, ça sera 8 aussi, ce sera les activités quotidiennes. Le jardin compte là-dedans. C'est une activité de bureau, le jardin. On verra pourquoi après. Allez, le jardin, on va le mettre entre 8 et 13. Pour être gentil, on va mettre 10. Mais voilà, vous pouvez déjà établir pour vous les dépenses quotidiennes. Tout le monde a fait le calcul ? Alors du coup, selon où tu te situes, de toute façon, c'est le métabolisme de base, on va simplifier, c'est 22 fois le poids corporel. Et ça, c'est le métabolisme de base journalier. Et après, on ajoute 8 fois le poids, ou 13 fois le poids, ou 18 fois le poids. Bah après, sinon, tu, plus simple, tu fais 22 plus 13, c'est la ligne où tu te situes, admettons, étudiante. Activité de bureau. Donc du coup, tu fais 22 plus 8, 30, si je dis pas trop de bêtises, j'ai pas de ChatGPT avec moi, mais 30, et puis fois le poids. Et là, tu as ton kilocalorie par jour. Ça, c'est votre métabolisme de base. C'est assez important, parce que vous comprendrez après les différentes les implications. L'assiette de type. Alors, ça, c'est dans toutes les recommandations, si bien que j'ai trouvé ça sur le site des... vous aurez les ressources, si jamais. Je vais prendre des photos, mais le PowerPoint, vous l'aurez. L'assiette de type, ça, c'est un site canadien. C'est le gouvernement canadien qui a fait cette image-là, et ils ont fait une petite erreur. C'est que vous voyez des pommes de terre en bas à gauche. Pommes de terre, c'est dans les glucides. C'est riche en amidon, c'est des glucides. Donc ça, c'était une petite coquille, mais sinon, il est pas mal ce schéma. L'assiette type, elle est comme ça. La moitié de légumes, donc environ 250 grammes pour un adulte. Un quart de féculents complet. Le plus complet possible, alors certains auront du mal avec des problèmes digestifs, et c'est le semi-complet, mais le blanc, donc dès qu'ils ont retiré tout ce qui entoure la graine, ça va vous faire grimper l'index glycémique énormément. Donc vous perdez vraiment de l'efficacité là-dessus, vous aurez beaucoup moins de fibres, et donc le sucre est beaucoup plus absorbé s'il y a moins de fibres. Et les protéines, un quart de protéines animales ou végétales, un quart, donc 120 grammes aussi. Grosso modo, hein, c'est des approximations. Je ne dis pas qu'il faut prendre une balance et mesurer. Justement, après, on va essayer de développer des petits tips pour pas le faire. Moi, je n'aime pas mesurer mes aliments, enfin, sous ça. Mais une assiette standard, on ne prend pas les assiettes de restaurant comme ça. Hein. Une assiette standard, où vous avez la moitié de légumes, un quart, c'est globalement une bonne approximation. Et de toute façon, en fonction de ce que vous mettez, on ne pourra jamais être exact, ça ne sera jamais 550 kilocalories. Mais on sera dans une approximation, et lisser sur une semaine, sur un mois, sur une année, ça a du sens. Alors avant de faire ça, je ne mangeais pas du tout comme ça. Et j'étais plus sur un quart de légumes, un demi de féculents et un quart de protéines. Et là, je crois que c'est à peu près au moins la moitié des personnes qui mangent beaucoup plus de glucides que de légumes. Il y a une cause économique à ça. C'est beaucoup moins cher. Les glucides sont beaucoup moins chers que les légumes. Mais quand vous faites le tri, hein, quand vous faites le tri avec tout ce qui va autour, les extras, on est sur un prix qui n'est pas délirant. On en parlera après du prix. Les petits déjeuners ou collations. Donc vous avez ça, c'était les deux repas, matin, midi et soir, pour ceux qui mangent deux repas. Donc midi et soir, ça vous apporte à peu près 1100-1200 kilocalories. Ensuite, vous avez, pour ceux qui prennent des petits déjeuners et ou des collations, vous en avez deux fois, j'en ai mis deux fois dans la journée. Et donc ça, typiquement, c'est une tranche de pain, c'est grosso modo 40 grammes. Le beurre de cacahuète, faut aimer, mais c'est excellent pour les protéines, justement. Et tout ce qui est à base de... Enfin, dès que vous intéressez un peu à la nutrition du sport, ils en mettent partout. Alors partout. Les fromages, 20 grammes. Oléagineux, intéressant aussi, une poignée d'oléagineux. Ça peut remplacer cette partie-là. Un œuf, un fromage blanc, ça aussi c'est pour les protéines, le bon gras. Or le skyr, il y a une mode sur le skyr parce qu'il est 0% de matière grasse, c'est du plâtre. Oui, pourquoi pas, mais c'est très cher pour ce que c'est. Hein. Prenez un. Alors celui-là, c'est très protéiné, mais pas plus qu'un. C'est compact, quoi. C'est ça. Mais un fromage blanc 3%, c'est pas si délirant que ça. Et c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Ok. Je l'avais pas. Ouais, peut-être au kilo, ouais, ok. Le fromage blanc, il me semble qu'il y a... Enfin, le skyr, on paye beaucoup le nom. Le nom est... Alors, fromage blanc, je suis quasi sûr que c'était moins cher. Mais, si vous voulez, on n'est pas dans des... Vous pouvez prendre l'un ou l'autre. C'est pas... En fait, ça reviendra globalement au même. T'avais une question, Mel ? C'est ce que tu disais ? Un petit Suisse. Et en fait, ça c'est intéressant parce que bien souvent on va porter notre attention sur le détail en prenant ça. Et en fait, le truc c'est que le détail entre le skyr et effectivement il est important quand on veut encore aller plus loin. Mais retenez qu'un fromage blanc ou qu'un yaourt simple ça peut vraiment faire l'affaire. Un skyr et des petits Suisses aussi et un fruit. Donc ça, grosso modo, je le recommande deux fois par jour, en une ou deux fois. Vous pouvez, si vous avez vraiment faim, vous pouvez le prendre une fois. La question n'est pas là, la question c'est de la quantité globale. Et les cheat meals, donc ça c'est le côté plaisir. Comme je vous disais, moi je n'y touche pas trop pendant la semaine, mais ça c'est vraiment personnel, depuis que j'ai fait un peu cette formation-là, parce que j'essaie d'appliquer ce que je vous dis, ce qui n'est pas toujours simple, mais j'essaye, à mon niveau. Moi, j'arrive pas à me limiter à un carré de chocolat ou deux carrés de chocolat. C'est impossible. Je le dis, je suis faible là-dessus. Le problème n'est pas le chocolat ou le Ferrero. C'est les 5 ou 6 autres qui suivent. C'est ça, le problème. Et donc, 300 kilocalories, c'est un croissant. Et c'est là que vous vous rendez compte que ça fait mal. Parce que tout ce qu'on a dit avant, c'est 300 kilocalories. Un croissant, c'est 300 kilocalories. Vous aurez beaucoup moins faim après avoir mangé une collation comme ça qu'un croissant. Et à 11h, en plus, vous n'aurez pas le pic de glycémie, le pic d'insuline qui va vous mettre à plat. Là-dedans, on essaie d'éviter à tout prix les sucres transformés, c'est ce que je disais juste avant. Ok. Des questions là-dessus ? C'est vraiment, l'idée, c'est de vous donner une idée des différentes choses. Hein. On a des régimes hyperprotéinés, effectivement. Alors souvent, ça répond à un objectif qui n'est pas sur le long terme. Alors à corriger, hein, si je me trompe, je ne suis peut-être pas à jour sur les toutes dernières recommandations, mais il me semble que c'est vraiment des régimes qui se font sur une courte période, bah, typiquement pour restaurer certaines fonctions. C'est ce qu'on fait chez les personnes âgées. Ce que je disais juste avant, alors c'est rien à voir avec vous, mais simplement sur les personnes très âgées, on le fait aussi, ces méthodes-là, parce qu'on va leur donner un régime très très protéiné pour qu'ils récupèrent des muscles. Et c'est ce que va faire un athlète qui se prépare à une compétition. Il va prendre un régime hyperprotéiné, c'est ce qu'ils appellent les prises de masse. Voilà, une prise de masse, c'est ça. C'est manger hyperprotéiné pour construire du muscle. Le problème de l'hyperprotéiné, c'est que vous avez généralement, quand c'est naturel, du gras qui vient avec, parce que une source de protéines, ça va être les viandes, viande rouge, très protéinée mais souvent très grasse, avec des acides gras, on a vu tout à l'heure, qui sont saturés. Les viandes maigres sont assez intéressantes, le poulet, tout ça, mais ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Et bien souvent, pour atteindre de l'hyperprotéiné, bah, les sportifs de haut niveau passent par des compléments. Parce que s'ils devaient manger ce qu'il leur faut, il faudrait qu'ils mangent... Enfin, il n'y aurait plus de poulet dans le monde, quoi. Ils prennent beaucoup de donc, ce qu'ils appellent la whey, c'est la marque la principale, mais c'est tout ces gammes-là. Oui, vous mangez hyperprotéiné. Je ne pense pas que ça soit le sujet dans la majorité des cas. Mais c'est intéressant, je regarderai par rapport à ces nouvelles recommandations. Mais là, on va présenter celle-là, l'ancienne pyramide peut-être, mais à se renseigner pour la suite. Vous vous rappelez de votre calendrier alimentaire ? C'est le moment de le sortir. Pardon. Les édulcorants, ben ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Dans cette méthode-là, il n'y en a pas. Parce que quasiment tout est naturel. Les légumes sont naturels. Enfin, il y a peu d'édulcorants qui vont. Donc, ce sont des exhausteurs de goût. Mais je pense que c'est toujours plus intéressant de prendre un yaourt nature et de rajouter une goutte d'huile de vanille naturelle. Parce que c'est pas plus cher du tout, hein, d'avoir un flacon de vanille au frigo et puis de rajouter une goutte, que de mettre un édulcorant dedans. Parce que vous aurez toujours plus de qualité, quoi. Et tous les conservateurs, ben, l'idée, c'est de ne pas en avoir. Alors après, les conservateurs, il y a des conservateurs naturels. Hein, le citron, l'acide citrique, c'est des conservateurs naturels. Mais dans les E et quelque chose, il y a du pire au normal. Mais l'idée dans ce que j'aimerais présenter, c'est vraiment quelque chose de naturel, quoi. Le plus naturel possible. Parce que vous ne savez jamais trop ce qui se cache derrière les E quelque chose. Par exemple, le rouge, la couleur rouge qu'on met dans certains aliments, c'est de la cochenille, donc c'est de la cochenille, c'est des sortes d'insectes, petits insectes rouges là, qu'on voit sur les petits murets, écrasés, et ça donne la couleur rouge. Le truc, c'est que vous ne savez pas à quoi ils sont nourris, ces insectes-là. Et vous mangez des insectes aussi. Ça, faut le savoir. Alors, le calendrier. Vous l'avez sorti, c'est bon ? Tout ce qui est viande rouge. Donc là, vous allez prendre vos petits stabilo et on va colorier. Par jour, hein, là, je parle vraiment par... Alors, la viande rouge, ça sera par semaine, pardon. Par semaine, vous avez une viande rouge, c'est jaune. Vous pouvez surligner en rouge, la première qui vient. Vous déroulez votre calendrier alimentaire, la première viande rouge. Alors qu'est-ce qu'on entend par viande rouge ? C'est toutes les viandes, le bœuf, le porc, le saucisson, le tout, voire même le canard pour certains. Alors, je ne sais pas qui a mangé du canard cette semaine, mais c'est plutôt dans la viande rouge. Les viandes blanches, c'est les oiseaux, les volailles, principalement. Nos poulets d'Inde, on va simplifier comme ça, et les poissons. Poisson gras idéalement, saumon, truite. Non mais j'explique juste la différence entre les viandes rouges et viandes blanches. Viande rouge, le bœuf, le porc, le zèbre, ce que vous voulez. Viande blanche, poulet d'Inde. La charcuterie, c'est viande rouge et c'est le très mauvais de la viande rouge, vu que c'est quasiment que du gras. Donc les viandes blanches et puis les poissons. Donc dans viande blanche, on passe les poissons dans viande blanche, même si dans les poissons, et malheureusement, ils sont à peu près tous pollués aux métaux lourds. Donc vous pouvez difficilement avoir une... Dans notre société, c'est difficile d'avoir une alimentation parfaite, très honnêtement. Mais les poissons, vous avez la truite et le saumon qui se dégagent un peu du lot parce qu'ils ont des très bonnes graisses à l'intérieur. Mais les saumons sont hyper pollués. Bon, c'est un autre débat. Je ne pourrais pas résoudre le problème de la pollution aujourd'hui. Mais l'idée, c'est ça. Viande blanche, viande rouge. Donc la première viande rouge que vous voyez apparaître sur votre planning, c'est en jaune. La deuxième, c'est en rouge. Et les suivantes. Bon, je sais pas, vous avez mangé poisson, viande blanche, donc ça compte pas. Poisson, c'est une viande blanche, donc on la surligne pas. Pour l'instant, on surligne pas. Je parle que de la viande rouge. Donc vous avez mangé un steak le lundi, jaune. Si vous avez mangé deux steaks ou suivant, les jours suivants, c'est rouge. Enfin, ou jaune, orange, comme vous voulez. Orange, pardon. Viande rouge, c'est du steak. Viande rouge, non. Ensuite, pour ceux qui sont un peu en avant, donc les légumes. Dans chaque plat, vous allez surligner votre plat. Si les légumes représentaient 50% de l'alimentation en vert, 25 à 50 en jaune et moins de 25 en rouge ou orange, je ne sais pas si les couleurs vous avez, mais qu'il y ait trois nuances, quoi. Vous avez compris la suite, les fruits c'est en vert, les sodas en rouge, l'eau, si vous avez marqué l'eau, bon, il y avait marqué boisson donc je l'ai mis quand même, mais c'est vert. Le café ne se prononce pas. Le café c'est assez comme le thé et le café, il y a plein d'avis différents. A priori en petite quantité c'est pas problématique, c'est en grande quantité que ça le devient, sauf chez certaines personnes. Où ça peut déclencher des troubles cardio, c'est assez, bon, c'est excitant. Et puis maintenant, il y a des études qui sortent comme quoi le café est placebo. Alors je vous avoue que là, j'ai pas fait mon idée là-dessus, j'ai pas trouvé de choses particulières. Donc le café, on va mettre joker là-dessus. La seule chose, c'est qu'il faut pas que vous en preniez 2 litres par jour. C'est une à deux tasses maximum. L'alcool, c'est plutôt rouge, hein. Or bien que la Bible parle de prends un verre de vin et puis pour ton estomac, j'ai pas trouvé de recommandation sur l'alcool. On est plutôt sur de la recommandation pour les grandes sociétés, les grands vignobles français, qui vont vous dire oh c'est bien un verre de vin par jour, mais finalement en termes de nutrition on n'est pas ouf quoi, on est plutôt rouge. C'est bien pour le plaisir, mais pas pour l'alimentation quoi. Et si... Là, les œufs, c'est de la bonne protéine. Donc ça, on le mettra en vert ou en poisson, œuf d'Inde, poulet, tout ça, c'est vert. Saumon aussi. Alors saumon pas fumé, hein. Saumon fumé, il est très salé et très les graisses se sont transformées. Alors c'est très bon, hein, mais. Mais c'est les pavés de saumon cuits pizza rouge. Alors, jus de fruits, s'il n'y a pas de sucre ajouté, on peut mettre en vert, c'est pas un problème du tout, il y a des fibres dedans. Alors ça va faire grimper la glycémie, mais avec des fibres. Le lait, c'est très riche. Le lait, on peut en prendre, mais ça va compter dans les produits laitiers, donc dans plutôt les bonnes protéines. Mais pas en excès. C'est un peu comme le fromage qui est très salé, qui est très gras, qui peut compter dans des bonnes protéines quand même, mais vraiment on est sur 20 grammes de fromage ou d'équivalent par jour. Donc en gros, il faut choisir son combat. Ça va être difficile de prendre un verre de lait si dans le repas, à la collation, on avait déjà un yaourt et qu'en plus de ça, on s'autorise un petit bout de fromage, 20 à 30 grammes, c'est un huitième de camembert, c'est très peu. Ben, du coup, le lait en plus, ça va faire un peu trop. Parce que c'est assez riche en mauvaises graisses aussi. On est beaucoup sur des graisses saturées dans les produits laitiers. Pomme de terre, c'est des glucides. Donc on est vraiment sur les un quart glucides. Donc s'ils ne représentent pas la majeure partie de l'assiette, c'est pas mal. Mais il faut que ça représente un quart. Le jambon, c'est du porc, viande rouge. Ultra rouge. Le riz, bah pareil, c'est un quart. Idéalement riz complet, donc riz, quinoa, boulgour, couscous, tous ces aliments-là, on est sur du glucide à index glycémique plutôt lent. Plus c'est complet, plus c'est un index glycémique lent. Et donc là, on va être plutôt si c'est moins d'un quart dans l'assiette, on est plutôt bien. C'est ce qu'il faut. Si c'est plus d'un quart, c'est on va dire jaune. Mais si c'est plus d'un quart, ouais. Alors c'est un peu pareil avec le lait, il est plutôt bien classé parce qu'il faut des produits laitiers ou des équivalents. Il y a des équivalents végétaux mais qui sont plus difficilement absorbés. Je pense aux vegan et végétaliens, je crois qu'ils ne prennent pas de lait. Ça c'est beaucoup plus dur. J'ai pas, dans les recommandations, il n'y a pas d'équilibre alimentaire pour une alimentation vegan. Il y aura toujours des déficits. Si bien qu'il est recommandé pour les véganes de prendre des compléments, parce qu'il y a des choses essentielles qu'ils n'auront pas. La B12, il y a une partie des B9. Non, B9 c'est légumes, donc non. Je ne l'ai plus, mais j'ai une ordonnance là-dessus. Sur les compléments alimentaires pour les personnes véganes. C'est très difficile d'avoir une alimentation qui répond à tous les besoins en étant végane. Végétarien, c'est possible. Parce que vous avez des lentilles, vous avez les œufs qui sont autorisés. Donc, ça permet de résoudre des problèmes. Les laits végétaux. Alors, les laits végétaux, on va être assez caloriques, pour le coup. Ouais, si vous regardez, enfin, faut regarder derrière. Je n'ai pas d'exemple là. Il me semble que sur un lait d'amande, sur des laits comme ça, on est quand même assez calorique, hein, c'est quand même très gras. Hein, l'amande, on fait de la purée d'amande, et puis du coup après ils vont extraire une partie qui va être le lait. Donc c'est assez calorique, c'est pas de la mauvaise graisse, tant qu'il n'y a pas de sucre ajouté dedans, tant qu'il n'y a pas de soucis, mais on va vite grimper en kilocalories. Le lait de vache, ça rejoint ça. Moi je le mettrais vraiment dans les laits, en fait, les laits, bien que ça apporte moins de calcium. Je les mettrai dans les laits pour ne pas faire d'excès par rapport à ça. Donc plutôt dans le quart protéines, si ça ne dépasse pas. Crème de soja, je ne sais pas. Là, je n'ai pas la ref sur la... Pour agrémenter les plats, tout ce qui est crème, on va être dans le quart protéines, et il ne faut surtout pas les cuire. Parce que si vous les chauffez, en fait, ça fait grimper les acides gras saturés. Alors, c'est vrai que dans cette alimentation-là, les sauces, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Parce que dès que vous faites cuire un aliment qui est gras, il transforme ses graisses en mauvaises graisses. Et il y a l'huile d'olive et certaines autres huiles, mais qui sont difficilement accessibles, qu'on peut chauffer sans trop de problèmes. L'huile de coco, alors il y a une grande mode sur l'huile de coco. Je ne sais pas si vous avez vu cette mode-là sur l'huile de coco, c'est une des pires. C'est à chauffer, ça se transforme hyper rapidement en acide gras saturé. Et j'ai pas trop compris cette mode-là. Ou alors c'est que il y a un élément que je n'ai pas et que j'ai pas compris. Mais l'huile de coco, elle est pas ouf, quoi. Colza, noix et huile olive, c'est pas mal. Oui. Sirop d'érable, miel, c'est du sucre. Alors, l'avantage de ces sucres-là, c'est qu'ils sont hyper sucrants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau dedans, parce que c'est liquide. Ils ont une capacité à sucrer les aliments qui est beaucoup supérieure à un sucre normal. Donc on mettra mécaniquement moins, et donc ils seront moins caloriques. Mais c'est pareil, à la fin, dans le corps, ça revient au même. C'est du glucose. Alors sûrement qu'il y a aussi d'autres choses. Hein. Dans le miel, il y a des propriétés anti-infectieuses, il y a des choses comme ça. Le sirop d'érable, il est reconnu pour d'autres propriétés. Donc des choses qui sont à côté des sucres. Ça, c'est encore d'autres éléments. Mais moi, je privilégie toujours le miel au sucre. Dans un yaourt, miel, quoi. Enfin, faut aimer, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? C'est l'heure de l'exercice. Ah, une question, vous avez... Le muesli? Alors, c'est du C de l'avoine. Hein. Et l'avoine, c'est une graine... Alors, du coup, l'avantage, c'est que l'index glycémique sera beaucoup plus lent, quand même. On a de la... c'est des céréales complètes. Sauf erreur de ma part, mais il me semble que l'avoine, quand c'est dans le muesli, c'est plutôt classé dans le complet. Et donc, il va mettre beaucoup de temps à se dégrader dans le corps. Donc, l'index glycémique sera plus lent. Donc, le muesli, il est plutôt recommandé, il me semble, par les nutritionnistes en général, à la place des sucres rapides. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez d'autres informations. Voilà, c'est mes connaissances à moi, elles sont vraiment, je suis pas imparfaite. Donc n'hésitez pas à me challenger, ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Mais pour le muesli, c'est plutôt recommandé en général. Attention à la quantité, parce que du coup, vous allez avoir votre stock de glucides qui va quand même être important. Là où dans la collation que j'ai présentée, on a beaucoup de protéines. C'est ça la différence. C'est que vous allez griller votre cartouche des glucides. Moi, j'aime pas l'avoine. Si je me force à manger de l'avoine parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire, ça veut dire que je me grille des cartouches. Je préfère ne pas manger d'avoine le matin, manger autre chose, et puis manger mon riz le midi. Globalement, on sera sur des apports. Alors, en minéraux et en autres éléments, il y aurait matière à débattre. Mais sur le plan glucides, ça va pas être très différent, quoi. Donc moi je dis oui, pourquoi pas, pour le muesli le matin. Mais c'est comme le jus de citron, je ne sais pas si vous avez eu cette mode-là, tout le monde prenait du jus de citron le matin. Le jus de citron, effectivement, c'est un drainant, mais à mon avis, il y a plein d'autres choses à corriger avant de prendre du jus de citron le matin. Hein. Plein dans l'alimentation. Il y avait une question là ? Alors il faut regarder derrière, dans les spécificités, il y a à chaque fois hein, la composition. Encore une fois, c'est pas dérangeant du tout. L'idée, c'est que ça soit un plaisir. Parce que si vous mangez le muesli parce que faut le manger, parce que c'est ça qu'on vous a dit, ça n'a pas d'intérêt. Complètement. C'est complet. Ouais. Oui. Complètement. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pour ça que je dis, ça dépend vraiment des gens. Et le muesli peut être une balle dans le pied. Parce que plus la graine est complète, plus vous aurez du mal à la digérer. Maintenant, j'aimerais juste qu'on fasse notre petit exercice.